Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3 et vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Ici Myriam Lévesque au micro aujourd'hui et je suis accompagnée par Julie Francœur à la co-animation. Bonsoir Julie.
Allô Myriam.
Ce soir, on a le plaisir de recevoir Catherine Dumont-Lévesque qui a récemment déposé son mémoire en histoire à l'Université de Sherbrooke. On va s'intéresser à ses recherches et plonger dans les années 1980 et parler du magazine pour ados Filles d'aujourd'hui. Alors bonsoir Catherine, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci de m'avoir invitée.
Donc, tu as étudié plus précisément les discours sur la sexualité, l'alimentation et l'image corporelle des adolescentes. Où t'es venue l'intérêt de travailler sur un tel sujet?
Bien, moi, j'ai fait le contraire de ce que les historiens sont censés faire en général. Je suis vraiment partie de mon vécu personnel. Puis, j'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi il y avait un interdit dans nos sociétés. Puis, un tel tabou pour les femmes, soit à aimer beaucoup la nourriture ou aimer beaucoup la sexualité. Puis, je trouvais vraiment qu'il y avait un fil conducteur entre les deux. Puis, j'étais persuadée qu'il y avait une explication historique à ça. Fait que je suis allée chercher là-dedans.
J'imagine aussi, parce qu'on est de la même génération, j'imagine aussi que ton intérêt s'est porté sur des choses que tu connaissais, dont un magazine qu'on connaît toutes, le magazine Filles d'aujourd'hui. Peux-tu nous parler un peu de ce magazine-là?
C'est peut-être difficile à croire, mais à son époque, Filles d'aujourd'hui est comme tellement, tellement in. C'est vraiment comme un lieu de consécration pour les vedettes québécoises. Puis, en 1980, il y a Céline Dion qui fait la couverture, Martine Sinclair, Véronique Cloutier aussi. Fait que c'est vraiment un magazine qui est populaire. Son tirage est à environ 130 000 exemplaires à son époque. Fait que c'est vraiment exceptionnel pour le marché québécois. Puis, c'est ça, moi, je ne l'ai pas vraiment consommé, là, Filles d'aujourd'hui. Puis, je me suis vraiment consacrée aussi à des années qui étaient un petit peu plus loin de moi. Mais je sais que Filles d'aujourd'hui a continué dans les années 2000 aussi. C'est devenu Filles clin d'œil à un moment donné. Donc, ça a un peu rattrapé là, les autres magazines qu'on connaît bien comme Cool ou Adorable.
Ouais, moi, j'étais la génération de Cool.
Mais moi, je préférais Filles d'aujourd'hui. Je comprends pas que tu préférais Cool.
Grand débat d'émission. Filles d'aujourd'hui ou Cool. Fait que dans le fond, tu t'es intéressée aux années 90?
Vraiment juste la décennie. Je me suis arrêtée à l'aube de la décennie 90. Puis, c'est drôle parce que c'est ma directrice de maîtrise qui m'a proposé de faire ça. Parce qu'elle était abonnée à Filles d'aujourd'hui. Puis, quand elle a su que je voulais étudier l'histoire de la sexualité, de la contraception, de l'image corporelle, elle m'a suggéré de faire ça. Puis, je pense que ça lui a rappelé bien des souvenirs là, de j'ai cette maîtrise-là.
J'imagine. Puis d'ailleurs, je voulais simplement dire à nos auditeurs, auditrices, un petit avertissement en fait, parce que justement ce soir, on va parler un peu de sujets sensibles pour certains et certaines, tout ce qui est peut-être le contrôle d'alimentation, l'apparence corporelle, les diètes, donc tout ce qui pourrait peut-être être sensible pour des gens avec des troubles alimentaires, tout ça. Donc ça va être surtout abordé en bloc 2, mais bon, vous serez avertis là, si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous causer des tracas, ben vous le savez d'avance. Mais sachez que ça va être abordé avec une perspective critique, donc ça c'est aussi très intéressant. Avant de poursuivre, on va commencer avec une chanson d'Anne Sylvestre, l'incontournable chanteuse féministe, et on va écouter La faute à Ève. Bonne écoute.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Eve a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Eve leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Eve si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique, au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec trois bonhommes à la fois. Là c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa, pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'il s'imagine, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah!
Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. On est avec Catherine Dumont-Lévesque et on parle du magazine Filles d'aujourd'hui, très populaire dans les années 80-90 au Québec. Alors, tout d'abord, question de mettre un peu en contexte. Les années 70 sont vraiment des années fortes, là, côté militantisme, féminisme. Qu'est-ce qu'il y en est des années 80?
Ben justement, on est vraiment au lendemain de ce que les historiennes et les historiens ont appelé la révolution sexuelle. Puis il y a beaucoup de personnes qui estiment que les années 80, c'est un peu un temps mort là, du féminisme. Parce qu'on a tellement frappé un grand coup avec le féminisme radical des années 70 que c'est ça, les années 80, on dirait que c'est plus tranquille. Mais au contraire, la décennie 80, c'est un peu une phase de consolidation des acquis. C'est vraiment une époque qui est décisive aussi pour la bataille de l'avortement. Puis c'est un moment où il y a deux revues militantes très importantes qui apparaissent dans l'espace public, donc La vie en rose et Les têtes de pioche, qui sont vraiment résolument féministes, puis qui sont un peu la suite là, de Québécoises debout. Puis c'est aussi un moment où le Conseil du statut de la femme est assez actif, donc le féminisme québécois est vraiment en train de s'institutionnaliser dans le fond.
Puis dans la revue Filles d'aujourd'hui, comment aborde-t-on la question de la sexualité?
Mais je dirais qu'on l'aborde vraiment de front, parce qu'on en parle énormément, presque à chaque numéro, en fait. Là, c'est vraiment un des thèmes principaux là, de la revue. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de schémas aussi. On l'aborde vraiment en profondeur. Mais c'est sûr, c'est clair que pour l'équipe éditoriale, la sexualité représente vraiment un risque, finalement, là, pour les filles. Particulièrement pour les filles, parce qu'on pense qu'elles sont plus fragiles, plus amoureuses, plus douces, plus gentilles. Puis, c'est sûr que la notion de risque reste toujours présente à chaque fois là, qu'on aborde la sexualité des jeunes filles. Puis, on met beaucoup les filles en garde contre les garçons puis leurs élans sexuels aussi. Donc, on leur dit beaucoup de faire attention, de ne pas trop stimuler les garçons parce qu'eux ne voient pas la sexualité comme, de la même manière, dans le fond.
Puis, la contraception devient plus accessible, justement, là, à cette époque-là. Est-ce qu'on en fait mention dans la revue?
Oui, bien... En fait, comme je disais précédemment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur la contraception, sur le stérilet, la pilule, puis l'anneau. Puis on fait vraiment un inventaire là, de toutes les méthodes de contraception pour les personnes qui ont un utérus. Puis on explique aussi comment le cycle menstruel fonctionne, comment la production d'ovules fonctionne, comment savoir à quel moment de son cycle on est fertile. Tous ces trucs-là là, sont abordés. Puis on informe vraiment volontiers les jeunes filles sur les méthodes de contraception puis sur leur corps, mais le ton est souvent moralisateur, en fait. Puis on leur rappelle toujours que c'est vraiment leur responsabilité de se charger de la contraception et aussi de planifier, finalement, les relations sexuelles. Donc, j'ai l'impression que on vise un peu la réduction des méfaits en faisant ça, parce que contrairement aux générations précédentes où on disait aux jeunes filles « just don't do that », ben on essaie de leur donner énormément d'informations pour un peu mettre entre leurs mains là, la responsabilité de planifier la contraception.
Donc c'est intéressant, donc ça démocratise l'accès à l'information tout en étant assez moralisateur. C'est comme un mal pour un bien, justement. Je me demande quelle est la place, justement, des rapports de genre dans la revue, comment on aborde les relations gars-filles. Est-ce qu'on conserve les stéréotypes des époques précédentes, par exemple?
Ben oui, vraiment. Beaucoup. On sort vraiment pas des stéréotypes de genre. Là. C'est un peu plate comme réponse, mais comme je le disais, là, on répète souvent à quel point les garçons ont des pulsions. Alors que, visiblement, la sexualité des filles est vraiment limitée au monde des émotions, puis à l'amour, puis à l'attachement. Mais il y a quand même quelques exceptions où il y a des jeunes filles qui prennent la parole puis qui dénoncent un peu le fait que les garçons ont bien plus de liberté qu'elles. Mais c'est très rare. Puis, règle générale, fille d'aujourd'hui est vraiment un média de masse. Puis son discours s'écarte pas vraiment là, des sentiers battus, probablement pour des raisons commerciales. Parce que si ça avait été un magazine plus engagé, plus militant, ben, il aurait pas été autant lu, finalement.
Donc, selon toi, le magazine, c'est pas féministe, c'est pas politisé non, par rapport à son temps?
Non, il est vraiment, contrairement à Tête de pioche, là, puis à La vie en rose, c'est vraiment plus un magazine de divertissement, en fait. Mm-hmm.
Quel est le rôle des femmes, justement, dans la sexualité, dans le discours de filles d'aujourd'hui?
Ben, essentiellement un rôle passif. Ça, c'est vraiment pas en rupture avec avec les générations précédentes. Là. Ça change vraiment pas tant que ça. Puis je pensais que ce serait vraiment plus révolutionnaire, là, le rôle qu'on laisserait aux jeunes filles, mais on les invite pas mal à intégrer les stéréotypes des générations précédentes. Finalement, elles ont vraiment comme un rôle de prise en charge de la contraception, puis comme je disais tout à l'heure, de planifier finalement les relations sexuelles.
Puis est-ce qu'on parle, excuse-moi, j'ai juste une petite sous-question. Justement, si la responsabilité incombe vraiment aux femmes dans le discours sur la contraception, est-ce qu'on aborde la question des grossesses désirées et indésirées? Puis quel est le discours par rapport justement aux grossesses, vu qu'on s'adresse à un public assez jeune, là, les adolescentes?
Oui, oui. Ben étonnamment, pour un magazine qui parle autant de contraception, Filles d'aujourd'hui parle presque pas d'avortement, parce que c'est plus ou moins... Il y a des centres de planification familiale qui offrent des avortements en 1980, bien que ça soit encore comme illégal. Mais j'ai l'impression que dans le discours de Filles d'aujourd'hui, vraiment la pire chose qui puisse arriver aux jeunes filles, c'est pas nécessairement la grossesse non désirée, mais c'est beaucoup la contraction de maladies transmises sexuellement. Puis aussi avoir des relations sexuelles avec un garçon parce qu'elles sont amoureuses, mais que le garçon finalement est juste intéressé par les relations sexuelles. Ça, c'est le majeur risque là, contre lequel elles sont averties. Mais l'avortement, on n'en parle pratiquement pas, puis ça, je m'attendais pas à ça.
Donc, pour les ITSS aussi, dans le fond, la charge mentale revient toujours aux jeunes filles.
Ben ça, j'ai eu connaissance là, qu'il y avait comme une espèce de discussion mixte là, sur le sujet, mais on parle vraiment plus aux jeunes filles avec un ton culpabilisant des maladies transmises sexuellement là, et par le sang.
On n'en a pas parlé au tout début, mais en fait, qui parle dans la revue? Est-ce que c'est des jeunes filles qui parlent? Est-ce que c'est des expertes, des journalistes qui parlent? Et quelles sont les voix qu'on entend dans la revue?
Des fois, c'est difficile à déterminer parce que les articles, en général, ne sont pas signés. Il y a bien une équipe éditoriale là, derrière ça, mais souvent, ça va être, mettons, le courrier de Mimi. Ou le courrier de telle personne. Tu sais, Mimi, c'est qui? On le sait pas vraiment. Puis aussi, on va souvent dire dans les articles, un expert nous dit telle chose. Mais qui est cet expert? Ça, on le sait pas non plus. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé de Filles d'aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'espace courrier, courrier sexualité, courrier du cœur, courrier santé, etc. Puis les jeunes filles adressent vraiment comme leurs préoccupations finalement aux courriéristes. Puis il y a beaucoup d'interactions entre courriéristes et lectrices. Fait que ça, d'un côté, on a un peu un aperçu des préoccupations des jeunes filles à l'époque. Puis de l'autre, on a un peu le jugement de la société, de l'opinion publique sur les enjeux qu'elles adressent. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun puis divertissant aussi à lire. Là, j'ai vraiment beaucoup ri là, en faisant ça.
C'est intéressant de voir la dichotomie justement entre les deux modes de pensée. Il y a aussi une question qui est importante, c'est celle de l'homosexualité. Là, tout ce que tu as soulevé depuis le début de l'entrevue, ça concerne seulement les relations hétérosexuelles. Est-ce qu'on aborde la question de l'homosexualité?
Ben, ma réponse va vraiment être plate parce qu'on l'aborde quasiment pas. C'est vraiment pour un magazine qui parle autant d'amour, c'est clair que pour les personnes qui écrivent pour la revue, on parle de sexualité hétérosexuelle seulement. Puis c'est vraiment une absence, l'absence là, des amours homosexuels, c'est vraiment une chose que j'ai remarqué, puis j'ai consacré aussi un sous-chapitre parce que ça m'a vraiment intriguée, mais je pense vraiment que ça pourrait faire l'objet d'une étude vraiment plus approfondie là, parce que à chaque fois qu'on parle d'homosexualité dans Filles d'aujourd'hui, c'est comme si c'était une phase qui allait passer. Puis que si tout va bien, ça va passer, dans le fond. Là. C'est un peu ça le discours là, qui est abordé. Puis les courriéristes ne condamnent pas nécessairement l'homosexualité. T'sais, elles vont pas dire à une jeune fille, mettons, qui rapporte avoir un béguin là, pour une enseignante, pour une amie, qui est une mauvaise personne, mais ils vont un peu comme l'écouter, recevoir ce qu'elle dit, puis dire « Ah, pauvre toi, ce que tu vis, c'est difficile. » Mais ils vont un peu reporter son attention sur les garçons, éventuellement. T'sais, ils vont dire « Ah, c'est normal que t'aies de l'attirance pour une personne, pour une jeune fille, mais je pense que tu devrais fréquenter des garçons de ton âge. » Comme en gros, c'est à peu près ça, là.
Une belle manière d'encourager les jeunes filles à faire leur coming out seulement à 25 ans, même à 40.
Moins, c'est un peu poche.
Est-ce qu'il y a de la place aussi pour le plaisir féminin? Comment on aborde toute la question des rapports entre hommes et femmes, mais au niveau de la séduction, du plaisir, tout ça?
Ben, au niveau du plaisir féminin, on n'en parle jamais avec ces mots-là. Mais on souligne quand même aux lectrices que c'est normal pour elles d'avoir des pensées, de penser au sexe, de se masturber ou d'avoir des fantasmes, finalement. Donc, la notion de plaisir n'est pas complètement absente, mais elle n'est pas vraiment explorée non plus. Puis, je n'ai pas vraiment remarqué qu'on parlait à quelque part du clitoris, par exemple, puis de sa fonction principale, qui est celle de donner du plaisir.
Ah ben, je pense pas que cet organe était très, très connu dans les années 80. Là, c'est assez récent, les recherches... Ouais. Sur ça. Est-ce que tu dirais, somme toute, que Filles d'aujourd'hui peut être considéré comme un magazine féministe?
Non. Parce que, c'est vraiment plus un magazine de divertissement. C'est sûr que, moi, la période que j'ai analysée, c'est très court. Puis c'est au tout début de la revue. Fait que peut-être que le discours devient plus... ouvert avec le temps, puis peut-être qu'il y a des enjeux plus féministes qui sont abordés, mais le discours du magazine ne se veut pas nécessairement militant. T'sais, on parle beaucoup de la vie des mannequins, de la vie des vedettes, on vend du rêve un peu aux adolescentes, fait que c'est vraiment pas un magazine qui est engagé dans le fond.
Est-ce que tu t'es intéressée aussi, puis c'est peut-être difficile à étudier, mais aux impacts de la revue sur les femmes. Est-ce que tu sais s'il y a des femmes qui ont témoigné peut-être de leur lecture puis comment ça a affecté leur vie?
Ben, c'est drôle parce que la plupart des femmes à qui je parle qui ont une trentaine d'années et plus ont consommé Filles d'aujourd'hui puis on garde toutes sortes de souvenirs de ça. Mais moi, je trouve que c'était un peu ce qui manquait à mon étude finalement d'étudier comment ce discours-là a été reçu. Puis, je trouve que, moi, j'ai analysé le discours puis la manière dont il a été émis, mais ça veut rien dire en soi parce qu'on ne sait pas comment le lectorat a intégré finalement ces messages-là, mais je suis persuadée que tous les éléments qu'on vient de nommer, je pense qu'on peut les retrouver encore dans notre culture aujourd'hui. Fait que je suis persuadée que Filles d'aujourd'hui s'est fait un vecteur finalement de cette culture-là.
Il ne faut pas oublier aussi que c'était le Instagram de l'époque. C'est là qu'on allait chercher nos informations qui s'adressent à un public très ciblé. Et je pense que ce serait, ben là, encore une fois, c'était un mémoire de maîtrise, puis il est déjà complet. Donc, j'ouvre vers d'autres avenues là, pour donner peut-être des idées de mémoire à nos auditrices. Mm-hmm. Mais ce serait intéressant de comparer justement les revues des années 80, 90, même 2000, parce que nous, avant Facebook, moi, tout petite, je lisais ces types de revues-là. Mm-hmm. Et de voir la transition vers les médias sociaux, parce que c'est sûr que là, avec Internet, tout simplement, on a plus accès à une diversité de points de vue. C'est sûr qu'on consulte pas tout non plus, là. Mais reste qu'il y en avait pas des dizaines là, de ce type de revues-là. Tu l'as dit au début, le tirage était assez important. Tout le monde parlait dans le cours d'école de Filles d'aujourd'hui ou Après ça, Cool. Donc, c'est vraiment intéressant, justement, de voir la transition entre deux types de culture populaire pour adolescents.
Oui, puis c'est justement ce que je trouve le fun avec Filles d'aujourd'hui, c'est que pour la première fois, c'est comme le premier magazine de ce genre-là au Québec, puis pour la première fois, les lectrices ont vraiment comme un espace d'échange, puis elles peuvent aussi adresser des demandes anonymes, fait qu'elles peuvent parler de plein de sujets vraiment gênants, sans se faire prendre finalement, sans devoir passer là, par leurs proches ou par leurs amis pour en parler, là. Mais je trouve que t'as parfaitement raison quand tu dis que c'est le Instagram d'autrefois, là. Parce qu'il y a toutes sortes d'informations, dont des informations sur la sexualité justement qui se retrouvaient là-dedans.
Qu'est-ce qui explique, selon toi aussi, qu'on s'intéresse tout d'un coup au lectorat adolescent? Est-ce que c'est parce que ils commencent à avoir des jobs, ils commencent à pouvoir être des consommateurs, consommatrices aussi? Est-ce que ça peut avoir un impact sur le fait que tout d'un coup on s'intéresse aux ados?
Oui, ben je pense que l'intérêt est d'abord commercial, là, parce que justement, c'est dans le paysage littéraire québécois, les années 80, il y a vraiment comme un boom de production de littérature adolescente. Puis, on se rend compte que les jeunes ont de l'argent. Fait que c'est vraiment un bon public cible, finalement. Donc, je pense que l'intérêt est d'abord de faire des sous avec ça, mais aussi, peut-être qu'on considère que l'adolescence, c'est vraiment de plus en plus une classe d'âge à part entière, puis qui peut très bien consommer des trucs là, par les jeunes peuvent le faire par eux-mêmes finalement.
Ouais, puis je vais revenir. Tantôt tu parlais des rôles entre filles et garçons, puis l'idée que les filles sont un peu passives dans la sexualité et répondent aux désirs des hommes. La notion de consentement, est-ce qu'elle est présente dans la revue?
Ben, jamais avec ces mots-là de consentement, mais les lectrices sont quand même souvent invitées à se questionner si elles veulent vraiment avoir des relations sexuelles, puis à s'écouter à tout prix aussi. Donc, c'est quand même proche de la notion de consentement. Puis, on leur répète souvent de ne pas hésiter à dire non s'il y a un garçon qui insiste pour avoir des relations avec elles. Puis, on leur dit que c'est vraiment pas une preuve d'amour, là, finalement, d'avoir des relations sexuelles avec un garçon. Là.
Est-ce qu'il y a un désir de retarder la relation?
Je pense que oui. Souvent, on leur dit que le désir, ça va apparaître plus tard, que, tu sais, à leur âge, là, c'est pas formidable. Tu sais, ça n'a rien d'exceptionnel, là, les relations sexuelles. Puis même si les garçons sont bien pressés, tu sais, d'en avoir, ben, elles, ça va se manifester plus tard, tu sais, avec le garçon dont elles seront vraiment amoureuses, puis avec lequel, tu sais, elles vont bâtir leur vie, finalement. Ouais.
C'est fou comme c'est juste du renforcement de stéréotypes. Après ça, on se demande c'est quoi ce qui est structurel dans nos sociétés. Je vais pas faire de lien douteux, là, mais bon.
Ouais, puis on se demande aussi ça serait vraiment intéressant de savoir qui était en arrière de ces textes-là, parce que, en tout cas, tu sais, il me semble qu'un avis d'expert, c'est tellement déconnecté de ce que les filles vivent, que c'est impressionnant quand même.
j'essaie vraiment de pas juger le contenu de filles d'aujourd'hui parce que j'ai l'impression que à l'époque ça répondait vraiment à un besoin de responsabiliser les jeunes filles plus particulièrement sur la sexualité. C'est sûr que ça participait à la construction de plein de stéréotypes, mais c'était une façon de responsabiliser les filles sur la contraception. C'était vraiment une façon de s'assurer qu'il n'y ait pas comme que, je sais pas comment dire ça, mais que la société se porte bien finalement, là, qu'il n'y ait pas chez les adolescents trop d'accidents de parcours. Mm-hmm. Puis je pense que les enjeux sur lesquels on essaie de responsabiliser les lectrices, c'est quand même des enjeux qui sont réels. C'est sûr que ça se fait un peu au prix, là. Comme je le disais, ça renforce plein de stéréotypes, mais je pense que l'équipe éditoriale était quand même préoccupée par le bien-être là, de ses lectrices. Là. C'est sûr que oui.
Oui, on a moins de rigueur que toi. On est dans les jugements.
Mais c'est difficile de ne pas juger le passé.
Oui, bien surtout quand c'est un passé qui est assez proche, puis qu'on peut retrouver aussi certaines choses dans ce qu'on a lu, tu sais, quand on était ados nous-mêmes, puis quand même aujourd'hui encore, là, on retrouve ces discours-là. C'est encore d'actualité, comme tu l'as dit au début. Bien, si tu veux, on pourrait commencer par poursuivre et parler de tout l'aspect qui est apparence physique et l'importance que le magazine apporte à la beauté des jeunes filles. Donc, comment c'est abordé dans la revue?
C'est vraiment aussi un des thèmes principaux. Là. On en parle énormément. Ben, un peu moins là, que la sexualité puis les relations avec les garçons, mais on en parle quand même beaucoup. En fait, c'est vraiment... Surtout là, dans les magazines, dans les numéros là, qui approchent Noël, on se met à beaucoup parler d'alimentation puis de diète.
Puis est-ce que dans quel angle dirais-tu que ces sujets-là sont abordés? Est-ce que c'est dans l'apparence pure et dure? Est-ce qu'on fait des liens avec l'estime de soi? C'est quoi les thématiques qui se rattachent à la beauté dans le magazine?
On parle un peu... d'activité physique, mais vraiment plus pour l'aspect ça va te faire perdre des calories, tu sais, ça va sculpter ta silhouette. Puis je pense que la minceur aussi, puis être bien dans sa peau, puis avoir une bonne estime de soi, c'est vraiment des choses qui sont comme associées ensemble aussi. C'est des choses qui riment ensemble. Il y a vraiment beaucoup de suggestions de routine beauté. Comment changer son look en quelques étapes, comment réaliser le maquillage parfait, mais là, le maquillage de l'époque, là, donc le bleu marin là, jusqu'aux sourcils. Puis, comment bien s'épiler, comment travailler sa silhouette. Puis c'est ça, le contenu sur l'apparence physique est vraiment très dense aussi. Puis pour ce qui est de l'estime de soi, ben j'ai pas profondément analysé cet aspect-là, mais il y a beaucoup de psychotests comme « Est-ce que tu t'aimes assez? Es-tu sûre de toi? Es-tu indépendante? As-tu une bonne relation avec tes parents? » Ou des thèmes comme ceux-là. Mais ça, je les ai lus vraiment par curiosité, puis je les ai pas vraiment analysés là, parce que c'était super divertissant de jeter un œil à ça.
Est-ce que tu as fait les psychotests?
Je ne les ai pas fait, mais j'ai lu comme les résultats. Tu as eu une majorité de B. Donc, ta personnalité est plus comme ça, mais je n'ai pas, j'ai pas embarqué plus que ça dans le jeu, par contre.
Ben, on va avoir la chance d'explorer tout ça après la pause. Mais avant, on va y aller avec une chanson de Martine Sinclair. Vous allez peut-être le deviner tout de suite. On écoute « Ce soir, l'amour est dans tes yeux ». Alors, bonne écoute!
Étrange. vont chavirer. Ce soir l'amour est dans tes yeux, mais demain matin m'aimeras-tu un peu. Ce soir l'amour est dans ta voix, mais demain matin penseras-tu de moi. J'ai peur tout simplement que de nous deux tu sois gagnant et un beau jour me retrouver tout seul à force de trop aimer. Alors jure-moi
sur les ondes de Chiz 94.3 et vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Donc, avant la pause, on a parlé avec Catherine Dumont-Lévesque du discours du magazine Filles d'aujourd'hui, revue distribuée dans les années 80-90 au Québec. On a parlé de sexualité chez les adolescentes, donc le discours là, qui était rattaché à cette thématique-là. Et on a parlé un peu, déjà, on a effleuré le sujet de l'alimentation, de l'estime de soi, puis comment le magazine donne une importance assez grande là, à la diète, à l'apparence physique. Donc, on va poursuivre là-dessus. Tu as parlé un petit peu justement là, de l'estime de soi, mais est-ce que la revue encourage les jeunes filles à s'aimer puis à accepter leur corps?
Ben oui et non, parce que le discours est vraiment très contradictoire par rapport à ça, parce qu'on leur répète justement de s'aimer comme elles sont, d'être naturelles, d'être bien dans leur peau, tout en leur proposant mille et une façons là, de modifier finalement, de transformer leur corps. Puis c'est exactement ce qu'on voit se déployer dans les magazines actuellement, là, en fait, là, avec les slogans comme « Soyez naturel, soyez vous-même », mais dans le fond, on vous propose 53 routines, là, beauté, minceur, etc., là, pour transformer votre apparence corporelle. Donc, c'est exactement le même discours là, qu'on retrouve dans « Filles d'aujourd'hui ». Puis les courriéristes qui reçoivent là, des messages, mettons, d'une lectrice là, qui aime pas son apparence, répondent souvent à la lectrice de s'accepter là, comme elle est. Puis, mais à la page suivante, ben on lui propose justement, encore une fois, de transformer son apparence physique puis d'intégrer telle routine, minceur, beauté pour transformer sa silhouette. Puis aussi, dans Filles d'aujourd'hui, on propose souvent aux jeunes filles de se regarder nues dans le miroir, puis de noter tout ce qu'elles détestent à propos de leur corps pour se donner la motivation là, de le changer éventuellement, ou de se dessiner en mince, puis de l'accrocher dans sa chambre pour justement comme avoir en vue là, son objectif de perdre du poids.
Se dessiner en mince.
Ouais.
Il y avait aussi... c'est le pinçage révélateur. Ça m'a choquée. C'est une technique pour mesurer son gras en pinçant une partie de son corps. Puis si on est capable de pincer la partie, ben c'est qu'on a trop de gras.
C'est ce que j'appelle Vas-y.
Il y a toutes sortes de trucs comme ceux-là pour vérifier un peu l'état de... Mais je suis sûre qu'au fond, c'est bienveillant, tu sais, ces conseils-là pour vérifier un peu comme l'état de sa nutrition, de son état de santé, là, finalement. Sauf que dans le film d'aujourd'hui, c'est pas tellement des conseils de santé, c'est vraiment plus des conseils d'attitude à avoir par rapport à son corps, puis d'attitude à avoir par rapport à l'alimentation. Puis je trouve vraiment que c'est comme destructeur en soi, mais comme je le disais tantôt, notre société est vraiment encore porteuse de ces attitudes-là à avoir surtout quand on est socialisé comme une femme. J'ai l'impression que c'est vraiment des choses qui teintent encore aujourd'hui notre société.
Oui, puis comme tu dis, on peut pas se transposer à cette époque-là. Les valeurs étaient différentes, ouais. les enjeux étaient différents. Heureusement que la société évolue.
Oui, ben on commence à peine là, à s'en rendre compte à quel point notre société est grossophobe. Là. Donc, oui. Je suis persuadée qu'à l'époque de filles d'aujourd'hui, c'était même pas une préoccupation. Et puis que le mot grossophobe était peut-être pas non plus exprimé là, dans l'espace public.
Oui, parce qu'en fait, la santé, c'est associé à la minceur. Mm-hmm. Ça va avec, en fait, c'est indissociable pour filles d'aujourd'hui. On s'entend qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Mm-hmm. Mais c'est un peu ce que tu retrouves dans la revue, je crois.
Oui, oui, tout à fait. Je pense que la minceur, c'est associé à la beauté, puis à la santé. Puis la beauté, c'est aussi considéré comme un désir. Le désir d'être belle, c'est considéré vraiment comme naturel chez les jeunes filles aussi. Puis c'est pas anodin non plus que ça soit un des thèmes principaux, encore une fois, dans un magazine qui est destiné aux jeunes filles.
Je suis curieuse, je connais pas beaucoup. Ben, je connais les années 80 un petit peu dans la culture populaire, mais pas d'un point de vue scientifique comme toi. C'était quoi les diètes à la mode? Qu'est-ce que tu as vu au niveau justement des... Parce que là, aujourd'hui, on parle du régime intermittent, du véganisme, etc. Mais c'était quoi dans les années 80?
Étonnamment, j'ai pas tant analysé les discours sur la diète. Dans Filles d'aujourd'hui, on parle un petit peu de nutrition, mais pas beaucoup, comme je le disais. C'est pas tant des conseils sur la santé ou sur l'alimentation en tant que telle. C'est plus de comment se comporter là, à table puis face à la nourriture aussi là, pour manger le moins possible. Mais c'est sûr que les années 80, c'est aussi une époque qui est phénoménale là, pour les mannequins. Il y a plusieurs mannequins qui ont une carrière internationale là, à ce moment-là. Puis c'est comme du jamais vu, en fait. Là. Il y a Kate Moss qui est très, très populaire dans les années 80-90. Puis j'ai l'impression que à partir de ce moment-là, les standards de beauté étaient déjà comme impossibles, mais à partir de ce moment-là, ça devient encore plus, ça devient pire, en fait, là. Puis, comme j'ai vu là, dans Filles d'aujourd'hui, puis qu'on proposait, par exemple, aux jeunes filles, là, quand Noël approche, là, c'est le piton panique là, qui est enclenché, puis on propose un peu aux jeunes filles, tu sais, de, mettons, prendre une bouchée de chaque chose, de chaque plat, plutôt là, que de les manger au complet, là, pour quand même goûter à tout, puis pas se sentir trop privé, mais quand même pas trop manger, là, finalement.
Il y a quand même c'est la question du contrôle, de la restriction, oui, est très présente aussi. Est-ce qu'il y a une culpabilité qui est associée à ça? Qu'est-ce que les jeunes filles font s'ils trichent, s'ils mangent leur assiette au complet?
Je vais citer un article, mais je l'ai juste rencontré une fois. Là. C'est pas représentatif là, de tout le contenu de Filles d'aujourd'hui, mais je me souviens qu'il y a un article qui proposait fallait coller un petit peu partout dans la maison, près du garde-manger, près du frigo, ou tous les endroits où il y a de la nourriture, des trucs comme honneur au mérite de maigrir, ou quelque chose comme ça, ou gâteau aujourd'hui, bourrelette demain. Puis des trucs comme ça, il y a comme des espèces de punitions là, qui s'imposent. Là. C'est dans le discours de Filles d'aujourd'hui, on parle vraiment beaucoup de la motivation à pas trop manger puis à conserver une routine fixe là, d'exercice physique. Mais on parle pas nécessairement des punitions, mais je trouve que ce discours-là, justement, en encourageant la privation, on encourage vraiment comme le besoin intense de manger. Je pense que c'est comme une voie directe vers un trouble du comportement alimentaire. Là. Puis, tu sais, on n'en parle jamais là, mais de c'est quoi le contre-coup de ça, mais je trouve vraiment que c'est comme c'est omniprésent là, pour moi, à mon sens, dans la revue. Mais j'ai jamais lu comme une lectrice qui disait « Ah, ben là, qu'est-ce que je fais? J'ai trop mangé pendant la période des fêtes. C'est épouvantable. » Ou... J'ai comme pas pu mesurer vraiment ça.
Mais on peut se douter que, tu sais, même s'il n'y a pas de réponse, de questions de réponse claire, les pistes de réponse se retrouvent un peu partout, comme tu disais avec la sexualité. Tu sais, quand tu tournes la page puis que t'as un article là-dessus. Mm-hmm. Justement, je me demandais, est-ce que dans les courriers du cœur, tu as vu, ben, les courriers des lectrices, tu as vu des sujets qui, justement, touchaient aux troubles alimentaires? Pas juste à... Ben, je ne veux pas minimiser rien, là, mais vraiment des appels à l'aide, des trucs, oui, très alarmants. Là.
Ben, c'est arrivé une fois là, qu'une jeune fille parle, comme dans ses propos, là, visiblement, elle avait un problème puis elle était malade. Puis la courriériste l'a référé comme... je sais pas si c'était... Je me rappelle plus si c'était une ligne téléphonique ou si c'était un médecin ou quelque chose comme ça, mais elle lui a vraiment proposé comme d'aller chercher de l'aide, là. Mais c'est arrivé vraiment peut-être une ou deux fois.
C'est sûr qu'eux filtrent aussi ce qu'ils mettent dans la revue.
Mais
là.
C'est ça, ouais. On ne sait pas si ça fait vraiment l'objet d'une sélection, mais probablement. Là, je pense qu'ils devaient tellement recevoir de courriers qu'ils ont fait un tri, là, probablement.
Mm-hmm. J'ai trouvé ça intéressant aussi dans ton mémoire, c'est que tu dis que les filles sont un peu traitées comme des adultes, mm-hmm. alors que c'est l'époque où justement le corps change, mm-hmm. les jeunes filles ont besoin de manger, ils ont besoin de s'alimenter pour avoir l'énergie, pour faire plein de choses. J'ai trouvé ça intéressant de cette analyse-là.
Mm-hmm. Ouais, ben j'ai l'impression que c'est comme si elles devaient à la fois avoir le corps d'une jeune fille prépubère, mais aussi se comporter en préparant leur corps comme à l'âge adulte, puis pas éprouver de désir elles-mêmes, mais rendre leur corps désirable. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une contradiction bizarre là dans. Mais encore une fois, cette contradiction là est toujours présente là, dans notre société actuelle. Ça a pas tellement changé.
Là. Ouais, puis je sais pas s'il peut avoir une si on fait un rapprochement avec la sexualité, tu sais, il y a comme toute l'idée d'être désiré, c'est mm-hmm. ça répond au male gaze, tu sais, le regard masculin là, c'est très présent.
Oui, puis souvent on demande aux garçons qu'est-ce qu'ils aiment chez les, il y a comme des espèces de vox pop là, puis on demande aux garçons qu'est-ce qu'ils aiment chez les filles, puis tu sais vraiment pour que les filles adaptent leur comportement ou leur apparence au goût des garçons. Là. Puis ça aussi, puis ce thème-là, en particulier, l'espace qu'on laisse aux garçons dans les revues adolescentes, ça a été étudié d'ailleurs là, par des sociologues. Fait que ça, c'est intéressant.
Oui, vraiment. Puis on pourra en revenir après la pause, en fait, mais on va prendre une courte pause musicale et on va écouter un grand classique du Québec qui est sorti en 1990. On parle de sexualité, d'affirmation de soi. On va écouter une chanson de Marjo. Provocante. Alors, on se revoit après la pause. Bonne écoute.
Tu sais.
Toujours sur les ondes de chez 94.3. On est avec Catherine Dumont-Lévesque et on parle du magazine Filles d'aujourd'hui. On a parlé précédemment de sexualité, de corps, d'alimentation et juste avant de se quitter pour la pause, tu nous parlais de recherches qui ont été faites là, sur la place des jeunes hommes dans ces revues-là. Peux-tu nous en parler un petit peu? Quel constat en fait en sont ressortis?
Ben, en fait, je sais pas par où commencer, mais la place qu'on laisse à la voix des garçons dans les magazines pour adolescentes, c'est vraiment comme parlant, justement, comme tu le disais, le male gaze. Dans le fond, on invite un peu les jeunes filles à s'adapter à ce regard-là, puis à prendre en note, finalement, ce que les garçons aiment chez elles. Puis je me souviens que c'est pas nécessairement les capacités intellectuelles là, qui viennent en premier. Là. C'est vraiment plus superficiel.
Et ça aussi, il y aurait toute une analyse à faire parce que ce que les hommes vont dire dans un contexte de sondage, qu'est-ce qui les intéresse, ça correspond pas à ce qui les intéresse vraiment chez une femme parce que eux aussi veulent se conformer à des normes sociales qui leur sont imposées depuis longtemps. Donc, c'est un sujet fascinant, là, qu'on pourrait creuser de tout bon, de tout côté.
Oui, puis je pense que dans le contexte d'un vox pop aussi, il y a vraiment comme, je pense que les garçons qui ont été interrogés, peut-être qu'ils voulaient aussi donner une impression de virilité là, devant la personne qui les interrogeait. Fait que leurs réponses sont peut-être pas à 100% authentiques non plus.
Mm-hmm. Je me demande, est-ce qu'il y a... Là, on parle des garçons pour ce sujet-là, mais est-ce que ça pouvait arriver, par exemple, qu'il y ait des articles qui sont plus du côté du point de vue d'un garçon ou d'un homme dans la revue, par exemple un numéro spécial où c'était vraiment toujours axé sur les jeunes filles, par et pour elles?
Ben, il y a souvent des invitations pour les garçons. Je pense vraiment que j'aurais pu faire une étude sur comment les filles d'aujourd'hui abordent la masculinité, en fait. Là, j'aurais pu faire l'inverse parce qu'on voit ça apparaître, bien que ce soit un magazine qui est vraiment destiné aux adolescentes, il y a quand même une place là, qui est accordée aux garçons. Puis comme je disais, il y a souvent des vox pop de « Et vous, les garçons, qu'est-ce que vous pensez? » Puis là, il y a plein de réponses de toutes sortes. Puis c'est arrivé à quelques fois aussi là, que ce soit des garçons qui écrivent à la courriériste pour dire « Ah, bien que je sois un garçon, ça m'arrive de lire « Filles d'aujourd'hui » pour avoir des renseignements sur blablabla. » Fait qu'il y a quand même une voix, là. « Filles d'aujourd'hui » est quand même assez parlant là, sur la masculinité qu'on imagine, là, qu'on idéalise pour les garçons à l'époque. Fait que ça aurait pu juste constituer l'objet d'une étude au complet, en fait.
Ouais, ça serait vraiment intéressant. Puis tu parlais un peu plus tôt de l'idée des mannequins, à quel point il y avait de plus en plus d'importance. Tu parlais de Kate Moss, Marcine Saint-Clair qu'on a pu entendre. Mm-hmm. Quels modèles sont présentés aux adolescentes? Est-ce que c'est toujours un peu les mêmes femmes ou on sort un peu parfois des marges?
Je me souviens qu'il y avait une animatrice de radio, justement, qui avait l'air d'avoir un caractère vraiment plus prononcé. Je me souviens que elle, j'avais trouvé qu'elle sortait du lot, mais les modèles, si on parle d'apparence physique, par contre, c'est vraiment uniforme, là. J'ai pas porté une attention particulière aux modèles racisés, par exemple. Mais je pense que je peux pas dire avec certitude qu'il y en a aucun, mais je pense que je l'aurais remarqué s'il y avait eu une présence. Mais en général, c'est vraiment les mêmes modèles corporels qui sont présentés aux jeunes filles. Puis les personnes qui font la page couverture de Filles d'aujourd'hui, ce sont majoritairement des personnes blanches.
Oui, justement, comment est-ce qu'on aborde ces questions-là? Est-ce qu'on les aborde d'abord?
Oui, ben non, pas vraiment. Là. J'ai pas eu conscience. Encore une fois, je pense que ça aurait été un sujet pertinent pour une étude au complet, mais j'ai pas eu connaissance là, que vraiment les personnes racisées ou des personnes qui n'étaient pas blanche québécoise est une voix là, dans Filles d'aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment majoritairement des personnes blanches puis minces aussi. Là. Donc, même modèle corporel puis même statut là, de classe, beaucoup.
J'imagine que, ben, je sais pas s'il y a des hommes qui font des fois la page couverture ou s'il y a peut-être des posters d'hommes. J'imagine que c'est la même chose à ce niveau-là.
Oui. Ben c'est la majorité, c'est des hommes blancs. Il y a eu, je pense, le chanteur des Rolling Stones qui a fait la page couverture de Filles d'aujourd'hui, ce qui m'a vraiment étonnée.
International.
Mais très très connoté là. C'est un vieux monsieur ça, même en 1980. Non, mais c'est vrai. Ça vient renforcer un autre stéréotype qui les jeunes filles peuvent viser des vieux messieurs, mais les vieilles madames ne peuvent pas viser des. T'sais.
Exact.
Il n'y a rien d'étonnant dans tout ça.
Ouais, je suis parfaitement d'accord.
Est-ce que tu vois un rapprochement dans les discours sur la sexualité dont on a parlé plus tôt et les discours sur l'alimentation?
Ben oui, parce qu'il y a vraiment, vraiment une espèce de peur que les jeunes filles soient voraces, qu'elles aiment beaucoup manger ou qu'elles aiment beaucoup la sexualité. C'est comme si pour incarner vraiment le modèle de la bonne fille, il fallait pas se laisser aller ni dans la sexualité ni dans la nourriture. C'est comme s'il fallait toujours calculer les choses puis être délicate, être pas comme... je sais pas comment dire ça, mais... pas s'y lancer, le tête baissée. C'était comme s'il fallait que les jeunes filles aient toujours une certaine réserve. Puis je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que tout de suite, dès que j'ai commencé à lire Filles d'aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait un lien vraiment fort là, entre la sexualité puis l'alimentation. Puis c'est comme s'il y avait un espèce d'éternel tabou là, sur la consommation de nourriture et sur la sexualité des femmes.
Ça m'amène sur un autre sujet, là. C'est assez éloigné. Je veux pas te piéger, là. Dis-le honnêtement si tu le sais pas. 1980, on est beaucoup plus proche des années 50 que d'aujourd'hui. Est-ce que, puis dans les années 50, ce qu'on enseignait aux filles, ça passait par des manuels de bienséance, puis des guides pour la jeune épouse. Est-ce que tu vois des relents de ça dans filles d'aujourd'hui? Par exemple, 10 règles simples pour X ou comment se tenir chez tes beaux-parents? Est-ce qu'il y a des codes vraiment explicites de cette façon-là?
Oui. Il y a encore un modèle moral, là. Puis c'est dit, je pense que les conseils puis les injonctions sont dites de manière beaucoup plus cool. On le transmet là, vraiment d'une manière plus soft, mais il y a quand même vraiment des conseils de justement comment bien te comporter, tu sais, à ta première sortie en amoureux, ne pas avoir de petites manies dérangeantes là, qui vont déranger ton partenaire. Ou, tu sais, il y a vraiment encore... ça change vraiment pas des années 50 aux années 1980. Comment la manière qu'ont les magazines ou la littérature de dire aux femmes quoi faire puis comment le faire, ça, c'est vraiment... ça reste figé dans le temps, on dirait.
Mais parce que justement, l'intuition, le feeling est vraiment pas valorisé. Être une femme, c'est de rentrer dans ton moule puis de respecter ton cadre. Ouais. Sinon, là, je sais que tu as étudié quand même une période assez courte, mais est-ce que tu as vu une certaine évolution sur certaines thématiques ou certains enjeux au cours de la période étudiée?
Oui, ben j'ai l'impression que dans les premières années de la revue, on décourage généralement les jeunes filles là, d'avoir des relations sexuelles, puis on leur dit là, qu'elles sont pas prêtes là, de toute façon pour ça. Mais plus ça évolue, plus on tolère, là, on accepte mieux là, le fait qu'elles puissent avoir des relations sexuelles, puis même beaucoup de relations sexuelles, mais vraiment avec un partenaire qui est un garçon, dans une relation de couple stable, puis en ayant planifié une méthode de contraception. Donc, leur sexualité peut s'exprimer, mais vraiment dans un cadre qui est précis, là, qui est restreint. Mm-hmm. Mais c'est sûr que si je l'avais étudié pendant plus longtemps, j'aurais sûrement là, dénoté un changement là, plus profond. Là.
Ou pas.
Peut-être.
J'aurais aimé ça parler parce que si on sort un petit peu ton mémoire puis on regarde tes projets actuels, récemment, je sais pas si c'est récent, mais en tout cas, il y a quelques mois peut-être, là, ça fait quelques mois, tu as commencé une page Facebook qui s'appelle Le Petit Cours d'Histoire Féministe. Je t'ai suivi, là, je sais que tu as aussi une page YouTube, je crois. Donc, j'aurais aimé ça que tu nous en parles, en fait, là, parce que je trouvais que c'est intéressant puis c'est une belle initiative de diffusion.
Merci. Oui, c'est mon projet depuis quelques mois. C'est d'abord une chaîne YouTube. Puis avec Facebook, j'en fais la promotion. Mais le Petit Cours d'Histoire Féministe, c'est vraiment de petites capsules de vulgarisation historique qu'on peut consommer là, sur YouTube. Puis je parle là-dedans des mouvements féministes, de la contraception, des menstruations aussi. Puis je fais aussi parfois le portrait là, de quelques personnages féminins que j'aime bien. Puis, en fait, tout ce qui m'intéresse ou qui m'enrage se retrouve dans le petit cours d'histoire féministe. Puis, l'idée m'est venue parce que j'écrivais souvent des articles, mais je me rendais compte que c'était vraiment pas tout le monde qui avait la patience intellectuelle de lire ça. Fait que je me suis dit que j'allais faire un contenu qui se consommait plus facilement. Puis là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, faire ça. Donc, j'ai continué à le faire. Puis je suis contente parce qu'il y a vraiment une bonne réponse, là, les gens aiment ça. Ben, il y a des gens qui aiment moins ça aussi, mais on peut pas plaire à tout le monde. Là. Donc, mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ça.
Surtout pas sur des sujets choquants, là. C'est sûr que ça fera pas consensus.
Non, oui.
Est-ce que tu as prévu de poursuivre au doctorat?
Pas pour l'instant.
OK.
Mais peut-être un jour. Là, pour l'instant, les études supérieures, c'est des fois, c'est un peu essoufflant, là. Je pense que j'ai besoin de faire d'autres choses dans la vie, mais j'exclus pas ça, là. J'ai tout le temps... presque à tous les jours, je me dis « Oh mon Dieu, c'est tellement un sujet de thèse!
» J'en ai vu 14. Dans tout ce qui t'a dit aujourd'hui, là, j'ai vu 14 sujets de thèse.
Fait que peut-être qu'un jour, je vais laisser libre cours à ça.
T'es pas obligée non plus. Hein. Pas de la pression qu'on fait.
Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ton temps et de nous avoir accordé cette entrevue-là là, pour l'émission.
Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous de m'avoir invité.
Ben, ça fait très plaisir. C'est vrai, c'est un excellent sujet, tellement intéressant, tellement d'actualité. Je veux juste rappeler aux gens, là, si jamais vous voulez lire le mémoire de Catherine, le titre, c'est « Le discours sur la sexualité, l'alimentation et l'apparence corporelle des adolescentes québécoises durant la décennie 80, analyse du magazine Filles d'aujourd'hui ». C'est disponible en ligne sur le portail de l'Université Sherbrooke, j'imagine de la faculté d'histoire.
C'est disponible sur Savoir U2S. Puis ça rassemble tous les mémoires et toutes les thèses de toute l'université de Sherbrooke.
Donc, allez sur Savoir U2S et allez chercher le mémoire de Catherine. Suivez-la là, sur Facebook et YouTube, le petit cours d'histoire féministe. Et sur ça, je vous souhaite une très belle soirée, auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Myriam et Julie et on vous souhaite une très belle soirée. On se quitte sur un classique du début des années 90, Entre l'ombre et la lumière par Marie-Carmen. Bonne soirée!